Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, de retour dans cette émission après une période de repos forcé, en cette période qui, je pense, vous en conviendrez, est pas mal anxiogène. Bref, l'émission d'info locale est de retour avec au sommaire aujourd'hui l'info du jour, bilan des 45e transmusicales, retour sur les rencontres nationales des maisons des associations la semaine dernière. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, une interview sur les semaines brétiliennes de la laïcité jusqu'au 16 décembre. Et puis, recommandation, c'est de donner son sang à l'établissement français du sang lors de journées un peu spéciales. Bienvenue dans l'arène. Cette émission d'info locale, elle commence toujours avec une info du jour choisie pour vous dans l'actualité locale. Aujourd'hui, avec l'aide de Corentin, volontaire en service civique à Canal B. Dimanche 10 décembre, à l'Opéra de Rennes, était donné le clap de fin des rencontres transmusicales de Rennes, festival de musiques actuelles devenu culte et qui vivait sa 45e édition. Cette année encore, l'événement il a connu un grand succès avec 52 000 festivaliers présents entre le 6 et le 10 décembre et répartis entre de nombreux lieux de concert, 18 au total. Le Parc Expo, évidemment, qui a vu passer 32 600 spectateurs sur 3 jours. C'est un tout petit peu plus que sur l'édition précédente. Le Parc Expo, mais aussi l'Ubu, l'Air Libre ou encore l'Opéra. 11 concerts gratuits étaient aussi organisés aux Libertés et ont connu un grand succès avec 15 000 spectateurs sur 3 jours et puis des files d'attente qui débordaient dans la rue. Et puis sur scène, eh bien, ce sont 77 groupes et artistes qui se sont succédés pour plus de 35 pays et territoires représentés, ce qui colle plutôt bien à l'ambition de ce festival de faire découvrir des artistes émergents du monde entier. Si vous voulez revivre le festival des transmusicales 45e édition, eh bien, certains concerts ont été captés par Culture Box, la radio FIP et puis KIXP et seront donc bientôt disponibles en ligne. Le rendez-vous il est maintenant donné pour la 46e édition des trans. Ça se passera du 4 au 8 décembre 2024. On a le temps de s'organiser et ça se passera toujours à Rennes, évidemment, avec des organisateurs qui devront s'adapter puisque des travaux sont attendus prochainement dans le hall 8 du Parc Expo, c'est le Music Hall. Allez, après cette info du jour, un reportage sous forme de retour sur les 58e rencontres nationales des maisons des associations. Ça se passait à Rennes du 6 au 8 décembre. Explication des enjeux de ces rencontres avec le réseau national des maisons des associations et le MAR, le mouvement associatif rennais, dans une ville, Rennes, qui fait plutôt figure de modèle en matière de co-construction sur les politiques dans le champ associatif.
Alors, le principe, nous, des rencontres nationales, c'est de co-construire avec un territoire, justement. Bonjour, Sylvain Rigaud, délégué général adjoint du RNMA, donc le Réseau National des Maisons des Associations. Co-construire à la fois la thématique, et c'est pour ça que là, on était sur justement la co-construction dans la vie associative et la manière dont on va pouvoir accompagner la vie associative depuis sa place, qu'on soit une structure associative ou municipale, et comment est-ce que on peut travailler ensemble aussi au développement de la vie associative. Et en même temps aussi co-construire en arrivant sur un territoire qui va nous accueillir avec ses spécificités. Et à Rennes, elles sont fortes. Ça a aussi été cette logique qui a été très importante pour nous, c'était de s'imprégner de ce qui se faisait sur le territoire. Alors le RNMA, c'est un réseau qui regroupe 80 maisons d'associations et pas que, aussi des points d'appui à la vie associative, des services municipaux dédiés à la vie associative. En fait, toutes ces structures-là ont la même mission d'accompagner le développement de la vie associative sur leur territoire et avec une spécificité d'avoir à la fois des structures sous statut public, bien souvent des communes qui portent un service vie associative, et à d'autres endroits des maisons d'associations sous statut associatif, donc avec l'ensemble des associations du territoire qui contribuent à la construction du projet de cet équipement Maison des Associations.
Il existe depuis quand ce réseau ?
Il existe depuis 92, mais c'est d'abord constitué sous forme informelle, avant de se créer en association déclarée à partir de 2002, au moment où il a eu son premier permanent, son premier salarié. Progressivement s'est développé pour aujourd'hui avoir 6 salariés dans l'équipe, avec une spécificité, c'est avoir un siège social qui est tournant chez les adhérents du réseau, donc dans des maisons d'associations adhérentes, en l'occurrence actuellement à Quimper, et une équipe salariée qui, elle, est aussi en partie basée au siège à Quimper, mais aussi sur l'ensemble du territoire, avec des salariés à Lille, à Grenoble, à Lorient, à Marseille. Voilà.
Bonjour, moi c'est Benoît Vallée, je suis le vice-président du mouvement associatif Rennais. Notre but, nous, c'est d'aider à la co-construction des politiques de la ville avec les associations et la collectivité.
Vous êtes combien dans les équipes ?
On a la spécificité d'être uniquement basé sur un travail bénévole. Pour faire partie du MAR, il suffit juste d'être une association rennaise ou d'avoir une action sur le territoire rennais et postuler au moment de l'AG. On a un CA de 12-13 personnes qui se renouvelle régulièrement, et on est membre du réseau national du RNMA dans le cadre de la gouvernance de la MDA actuelle, où c'est le MAR qui porte cette adhésion, et ça faisait un moment qu'on y travaillait, et c'était un réel plaisir d'organiser ces 58e rencontres à Rennes.
On le redit, MDA pour Maison des Associations. Est-ce qu'on peut donner un exemple parmi vos actions qui est peut-être identifié par les Rennais et les Rennaises ? Il y a du plaidoyer, mais il y a plein d'autres choses.
Alors, il y a effectivement du plaidoyer. L'un de nos buts est quand même de faire remonter la voix de toutes les associations, qu'elles soient petites ou grosses, et surtout de mutualiser cette parole pour être entendue des élus, de la collectivité. Le dernier gros chantier sur lequel on a retravaillé là sur les 2 jours et demi, 3 jours, c'était la co-construction de la charte des engagements réciproques qui engage la collectivité, les associations et un travail en commun pour l'évolution de nos pratiques, le partage de nos valeurs, notamment sur l'éco-responsabilité, la lutte des discriminations et faire qu'on ait une cité agréable à vivre et peut-être répondre aux problèmes de société actuels.
On se retrouve donc à l'issue de 3 jours de rencontres nationales des maisons des associations qui se sont déroulées à Rennes. On dit à quoi ça ressemblait ? Vous étiez un peu mobile sur plusieurs lieux. Et à quoi ressemblait le programme de ces 3 jours ?
On a été à la Maison des Associations. On est aujourd'hui ici à la Maison de la Consommation et de l'Environnement. On a été également au Polyblone, dans le quartier du Blône. Donc voilà, on a aussi tenu à comprendre ce territoire. On a rencontré le directeur des Transmusicales qui nous a présenté l'événement. Ça a été des moments riches qui nous ont permis aussi de comprendre la vie rennaise et tout ça.
On est également allé mercredi soir aux Ateliers du Vent, sur lequel on a très bien mangé. Ils nous ont présenté leur projet. On s'est retrouvé aussi également hier soir dans des locaux du CPB, du Cercle, qui est quand même une association historique sur la ville de Rennes. Et on tenait à montrer cette diversité, cette vivacité qui caractérise clairement la vie rennaise aussi.
CPB pour Cercle Paul Bert, peut-être sur le contexte. Est-ce que dans les discussions, les enjeux financiers, particulièrement en ce moment, le contrat d'engagement républicain aussi, qui a un peu agité, en tout cas les débats dans la vie associative, ça fait partie des discussions. Quels sont les grands enjeux finalement là, aujourd'hui, fin 2023, pour les maisons des associations et le monde associatif en général ?
Sur le contrat d'engagement, sur la première journée, sur l'après-midi, il y avait une table ronde qui était organisée après avoir eu la chance de présenter avec Rosane Andreau un petit peu notre modèle rennais qui est basé sur cette charte des engagements réciproques, de faire un peu le parallèle avec ce contrat d'engagement républicain qui paraît plus une sanction ou au moins un outil pour bloquer la liberté associative. On a eu la chance de discuter avec Alternative à Rennes et d'autres personnes, et notamment aussi des scientifiques pour nous apporter un peu l'éclairage nécessaire à la compréhension de tous ces textes et ces engrenages. C'est un sujet très important dont on s'empare à Rennes comme ailleurs. Et on a eu aussi l'exemple de la MDA de Tourcoing qui a rencontré d'énormes difficultés sur leur territoire. Ça faisait effectivement partie des échanges. Sur le volet financier, effectivement, je dirais, ça reste un fil conducteur forcément sur toute structure, qu'elle soit associative, entrepreneuriale et même collectivité. Dans l'ensemble, il y a une forme de consensus où il y a toujours des solutions qui sont trouvées pour le moment, sans se voiler la face et des difficultés qui sont actuelles, c'est sûr.
Si on a choisi aujourd'hui ce thème de la co-construction, c'est justement parce que les alertes qu'on voit sur le monde associatif, c'est quand même un peu inédit d'avoir des attaques de ce type-là avec des dissolutions administratives d'associations, avec aussi un contrat d'engagement républicain qui est utilisé pour restreindre vraiment la liberté associative sur certains territoires, et des associations qui, de fait, sont aussi dans une autocensure vis-à-vis de leurs actions. Ça, c'est des alertes qui nous semblaient nécessaires de partager avec l'ensemble du réseau, de témoigner de ce qui pouvait se faire sur certains territoires, de le partager là où, sur d'autres territoires, comme ici, c'est plus apaisé, les choses sont moins frontales. Il y a un enjeu vraiment, à mon sens, à conscientiser tout le monde sur ces enjeux-là et à identifier le rôle des maisons des associations aussi dans l'accompagnement de ces dynamiques, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations signent, entre guillemets, parce qu'il s'agit de cocher une case, signent ce contrat d'engagement républicain sans même comprendre quels sont les enjeux de tout ça. Et il y a un travail pédagogique de la part des maisons d'associations à faire sur ces dimensions des risques pour les libertés associatives que présente ce contrat d'engagement républicain aujourd'hui.
Là, on se retrouve à la fin de ces rencontres. Il se passe quoi après, finalement, sur ce sujet de la construction qui a été choisie? Est-ce que le travail se poursuit tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a eu des engagements pris? Il se passe quoi après?
Non. Des engagements, je dirais, c'est pas réellement le but. Le but, c'est vraiment de travailler tous ensemble, d'aller inspirer aussi d'autres territoires sur notre modèle et les travaux qu'on peut réaliser ici. On a la chance quand même à Rennes d'avoir un terreau associatif qui date des années 70 avec une vivacité associative. Beaucoup de territoires nous envient, il faut quand même le reconnaître. Tout n'est pas parfait, mais nul n'est parfait et aucun territoire ne le serait. Mais effectivement, ça lance des dialogues, ça peut lancer des partenariats. On prend aussi beaucoup de contacts, d'échanges avec d'autres territoires qui ont porté des projets un petit peu similaires. Ça nous permet aussi de nous remettre en cause, nous ici, de voir un petit peu certaines fois des choses qui paraissaient des bonnes idées. Finalement, sur l'application, peut-être pas forcément. De répondre aussi à nos craintes sur la mise en place de cette charte des engagements réciproques, parce que elle est très engageante du côté de la collectivité mais aussi du côté des assos, et on a une remise en cause importante à se faire sur notre structuration en tant que milieu associatif. Sur ce qui doit se passer après, il y a déjà des travaux d'écriture un petit peu d'une sorte de méthodologie, de petits points de vigilance à avoir, parce qu'une co-construction, on part pas juste d'un écrit, on met pas juste des gens autour de la table, il y a tout un préalable sur lequel, notamment sur la charte des engagements réciproques, on avait été accompagné par le RNMA pour avoir un regard extérieur et puis apporter un petit peu cette vision de l'échelle nationale et de ce qui s'était passé aussi ailleurs. C'est clairement le but du réseau, c'est le partage, l'entraide, rencontrer, rapporter l'humain. Il y a des rencontres nationales qui sont organisées deux fois par an et il y a plus ou moins une sorte de fil conducteur en fait entre chaque rencontre. Donc l'équipe salariée continue à faire le lien, à travailler, à nous apporter des éléments et toujours là pour nous soutenir.
Quand on dit co-construction, on pense à la construction d'un projet entre les associations et l'échelon politique et la ville. Ça peut être d'autres types d'acteurs qui sont impliqués dans la co-construction ?
Traditionnellement, quand on parle de co-construction, c'est aussi, là on va rentrer dans de la sémantique, mais c'est aussi un mot qui a été construit par le politique, utilisé en tout cas par le politique, pour décrire le fait de faire participer les associations, les citoyens, etc., à la construction de la politique publique. Donc c'est un peu ça son origine. Aujourd'hui, nous on utilise plutôt le terme de catalyse territoriale, par exemple, pour décrire le travail entre les associations entre elles, le travail avec d'autres acteurs de l'écosystème du territoire, comme les entreprises, comme le monde de l'ESS, comme le monde académique universitaire. Voilà, il y a de multiples coopérations aujourd'hui qui existent sur les territoires et les maisons des associations sont On voit en tout cas, nous, que dans le métier des animateurs des maisons et des associations, cette dimension de catalyseur territorial est de plus en plus et devient une fonction clé des maisons, de mettre les gens en lien et de leur permettre de travailler ensemble. Peut-être revenir sur les suites rapidement de ces rencontres, parce que effectivement, la plus-value, la richesse, c'est de permettre aux gens de repartir avec des expériences, des témoignages, des choses à mettre en œuvre, des projets à mettre en œuvre sur leur territoire. Et on a eu aussi, de manière un peu inédite sur ces rencontres, une participation politique assez importante, avec beaucoup d'adjoints à la vie associative, Rosaine Andreau pour la ville de Rennes, mais aussi de Nantes, de Grenoble, de Tours, etc., qui étaient présents pendant ces rencontres. Et ça va nous permettre de travailler aussi sur des logiques de plaidoyer, alors à la fois pour essayer de continuer d'alerter et peut-être de trouver des réponses politiques aux enjeux du contrat d'engagement républicain et aux risques qu'il présente, mais aussi pour valoriser la question de la co-construction, parce qu'aujourd'hui, c'est des dimensions qui demandent aussi une entrée méthodologique. Alors il faut une volonté politique, certes, mais il y a aussi une dimension méthodologique, et ça peut être aussi des choses qu'on peut contribuer à apporter pour faciliter ces démarches.
Et ma dernière question, courte, un exemple de maison des associations donc hors de Rennes, pour donner un exemple aux auditeurs d'endroits où on peut en trouver ailleurs en France, avec associé un projet justement qui a pu un peu être marqué pendant les jours de discussion.
Sur la journée d'hier, on était sur un format d'atelier participatif où on s'est appuyé sur d'autres territoires à l'échelle nationale, puisque la co-construction, ce n'est pas qu'une idée réno-rennaise. On a le RESAM, notamment à Morlaix aussi, qui a porté un modèle de projet sur un principe de co-construction. On avait aussi une intervention du mouvement associatif de Bretagne, avec qui on travaille nous régulièrement, qui accompagne aussi d'autres territoires à valider la co-construction. Et il y a une multitude de territoires qui ont compris que construire des politiques publiques, quand on le fait tout seul en tant que politique, le citoyen et les associations vont avoir l'esprit de condescendance qui pourrait arriver, et puis le décalage avec le territoire. Ce qu'apporte la co-construction, c'est une meilleure connaissance du territoire, et encore une fois, partir des actions qui sont menées sur le terrain pour construire une politique qui a du sens et qui va pouvoir être implémentée sur le territoire, tout simplement.
Salve, Sir Zia. Salve, salve.
Parece que a humanidade está mais pra maldade do que para o bem. Acha que é malandragem tirar vantagem de quem não tem. E quem não tem caridade só nega a verdade achando normal. Esquece que sempre a bondade mais cedo ou mais tarde vai vencer o mal. Pois é, vai vencer de novo, Zé, como tem de ser. Pois é, pois a voz do povo vai prevalecer. Pois é, vai vencer de novo, Zé, como tem de ser. Pois é, pois a voz do povo, Zé, vai prevalecer. Eu sou do povo da rua, do brilho da lua entre o bem e o mal. Ando pela madrugada, cada encruzilhada é como um quintal. Se precisar de ajuda, alguém que acuda pode me chamar. Mas se vier de maldade, coitado com o padre vai se machucar. Pois é, machucar de novo, é como tem de ser. Pois é, pois a voz do povo, Zé, vai prevalecer. Pois é, machucar de novo, Zé, como tem de ser. Pois é, pois a voz do povo, Zé, vai prevalecer. Diz que me mandaram do povo, diz que me mandaram. tô descalço, morena, eu sou Zé do Povo. Diz que me mandaram um sapato novo. Mas eu tô descalço, morena, eu sou Zé do Povo. Diz que me mandaram um sapato novo. Mas eu tô descalço, morena, eu sou Zé do Povo.
Axé.
C'était Roger avec le morceau « C'est où Zé » sur Canal B, la première chanson à sortir depuis le premier album de ce musicien brésilien qui est expatrié aux États-Unis. Un album dont vous avez entendu des titres sur Canal B, intitulé « Curryman » et c'est sorti en mars 2023. Un mélange de samba, funk et de soul brésilienne que vous venez donc d'entendre sur Canal B, sur le 94.0 et sur canalb.fr avec, il faut le dire, des conditions particulières d'enregistrement de cette émission. Puisqu'elle a été réalisée sans accès internet dans nos locaux durant une bonne partie de la journée. J'espère que vous m'entendez là en ce moment. Émission La Reine qui se poursuit maintenant avec une interview. Marion Garnier, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes chargée de communication à la Ligue de l'enseignement en Ille-et-Vilaine qui organise les semaines brétiliennes de la laïcité. Ça a commencé le 1er décembre et ça se poursuit jusqu'au 16, cette semaine dans le département. Alors cette programmation, elle entoure la journée nationale de la laïcité qui a lieu chaque année le 9 décembre. Et finalement, c'est depuis assez récemment que le département propose une programmation dédiée autour de cette date.
Exactement, c'est la troisième édition.
Donc depuis 2020, en période de confinement, c'était peut-être même en ligne la première année, non ?
Très certainement.
Vous n'étiez peut-être pas là ?
Non, j'étais pas là encore pour la première édition, mais en tout cas, oui, ça fait quelques années qu'on travaille sur une programmation en partenariat avec le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
Avec le conseil départemental et aussi des associations que vous appelez d'ailleurs à rejoindre l'événement pour l'année prochaine s'ils sont intéressés.
C'est exactement ça. Donc la Ligue 35 souhaite vraiment engager un travail sur la programmation, un travail de fond avec son réseau d'associations affiliées et partenaires. Et c'est pour ça que la programmation est vraiment co-construite avec des associations. Chaque année, elles souhaitent y participer, contribuer à cet événement. Et on invite les associations qui souhaiteraient y participer sur les semaines brétiliennes de la laïcité, mais même en dehors de ces temps-là. Si elles souhaitent organiser des temps autour de la laïcité au sein de leur structure, elles sont bienvenues. Voilà, venez auprès de la Ligue de l'enseignement 35 et on vous accompagnera volontiers sur ces thématiques-là.
Peut-être un point vocabulaire, la laïcité, terme qu'on voit souvent réapparaître dans le débat politique et médiatique, donc une valeur qui, en tout cas dans sa conception française, à travers la loi de 1905, garantit la séparation de l'Église et de l'État, eh bien en fait permet la liberté de conscience, donc de croire ou de ne pas croire, et assure la neutralité de l'État face aux religions. Je me permets juste de glisser un mot sur un des derniers débats relayés médiatiquement, à savoir sur la fête juive Hanouka qui a été célébrée à l'Élysée et qui questionne donc la laïcité. Ça a fait débat. Est-ce que j'ai bien résumé sur ce que c'était la laïcité ?
Alors la laïcité, c'est un principe. Un principe juridique et politique, pas une valeur. Voilà. Et elle n'est ni un courant culturel, ni une famille spirituelle, ni une idéologie. C'est bien un principe, le principe de laïcité.
On explique pourquoi c'est votre association, la Ligue de l'enseignement, qui porte là, cette programmation qu'on annonce. C'est en fait que c'est un sujet, ce principe qui est au cœur de vos missions, mais tout au long de l'année.
Oui, en fait, l'histoire de la Ligue de l'enseignement est marquée par son engagement pour une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et c'est un travail continu pour la promotion du principe de laïcité tout au long de l'année. Donc on intervient dans les établissements scolaires, on organise des classes de vie laïcité, on a une exposition sur la laïcité au centre info-école. Mais on propose aussi des formations en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur les questions liées aux valeurs de la République et à la laïcité. Et on est aussi un espace de ressources et de mobilisation autour de ce principe.
Vous avez cité les classes de ville, elles existent depuis 2014. Ça prend quelle forme, ces classes de ville ? Ça ressemble à quoi ?
Donc en effet, les classes de ville sont des séjours éducatifs thématiques qui permettent la découverte d'une thématique en milieu urbain de Rennes et de son agglomération. Et effectivement, on organise des classes de ville laïcité dans la ville, avec notamment la visite de centres culturels et cultuels, et puis aussi la visite de l'hôtel de ville.
C'est des enseignants qui s'en emparent, en fait ?
Bah, en fait, c'est à la demande des enseignants. Du coup, les enseignants demandent de l'organisation d'une classe de ville sur 2, 3, 4 jours autour de thématiques complètement différentes, de la laïcité, le street art par exemple, donc voilà, l'art dans la ville. Et puis ensuite, il y a toute une programmation qui est préparée avec les animateurs et les enseignants pour que ça coïncide aussi avec des thématiques qui sont abordées dans les classes.
Et sur le niveau, du coup, il y a une classe d'âge particulière qui est concernée par ces classes de ville ?
C'est plutôt au niveau élémentaire. Mais il y a aussi quelques classes de ville qui sont organisées en collège.
Alors, les semaines brétiliennes de la laïcité, elles ont déjà connu plusieurs rendez-vous, une émission de radio spéciale et puis une table ronde sur un siècle de laïcité en Bretagne la semaine dernière. Il reste toujours une exposition à voir à l'espace social commun de Maurepa, donc au centre social, évidemment sur le thème de la laïcité. On peut décrire un peu à quoi elle ressemble, cette exposition ?
Donc c'est une exposition qui s'appelle « La laïcité sur les murs de France » et qui est répartie en trois thématiques. Donc la question des deux écoles, la séparation de l'Église et de l'État et le combat pour la République. Et cette exposition, vous pouvez la voir aujourd'hui à Maurepa, mais on peut aussi la prêter et la mettre à disposition de structures qui souhaiteraient en fait exposer sur la laïcité dans leurs murs.
Pour ce qui est de cette exposition, donc dans le quartier de Maurepa, elle est à voir jusqu'au 16 décembre et c'est sur entrée libre, plutôt pour un public de scolaire ou même si on est adulte, on peut y apprendre des choses.
On y apprend de l'école à tout âge, de 7 à 99 ans comme on dit. C'est aussi une expo qui est interactive. L'année dernière, on a fait des enregistrements avec des bénévoles Lire et Faire Lire qui ont enregistré la présentation, l'explication des affiches. Et du coup, c'est aussi disponible sur notre site. Mais c'est intéressant pour ça, c'est interactif.
Ce site internet, on le donne tout de suite, c'est laligue35.org. On annonce ensuite quatre événements qui restent à venir cette semaine dans les régions de Rennes et puis de Fougères. D'abord avec une proposition pour le public des volontaires en service civique, c'est jeudi 14 décembre. Peut-être dire pour ce public des volontaires en service civique, il se trouve que la Ligue de l'enseignement coordonne les missions de nombreux volontaires. Je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête approximatif du nombre de volontaires sur le département.
La Ligue 35, on accueille près de 90 volontaires par an au sein de 40 associations.
Au sein de 40 associations. Et donc pour eux et puis pour d'autres volontaires en service civique, il y a un géocaching qui est proposé jeudi. Même s'il n'y a plus beaucoup de place, c'est en fait une course d'orientation qu'on peut réaliser à n'importe quel moment en téléchargeant une application.
C'est ça, sur Théma Sport. Vous retrouvez toutes les informations aussi sur notre site, on a un article dédié, mais vous pouvez télécharger l'application gratuitement, Théma Sport, et puis il y a un parcours de 19 étapes pour découvrir ou redécouvrir la laïcité sous un angle plutôt ludique.
Donc dans la ville de Rennes ?
Dans la ville de Rennes, tout à fait.
Et c'est une proposition du CEDOS, le comité départemental olympique et sportif. Ces 19 étapes, ça veut dire qu'elles s'arrêtent par quoi ? Justement des lieux culturels
Culturels et cultuels, voilà, c'est ça. Vous pouvez choisir d'où vous partez et puis où vous arrivez. Ça passe dans toute la ville de Rennes.
Le contact pour s'inscrire pour la proposition du jeudi 14 décembre, je le donne, c'est le 02 90. 19 67 10 67. Pour le grand public, on annonce ensuite une conférence décalée sur le thème de la laïcité et l'espace public. Décalée parce que c'est une compagnie artistique qui va venir en parler au public, toujours le jeudi 14 décembre en soirée.
C'est ça, exactement. C'est une conférence qui a été conçue spécialement pour les SBL. On a choisi la thématique et on va découvrir ce que ça donne le 14. Donc on vous invite à venir découvrir avec nous. Voilà.
Donc la conférence décalée, ça se passe jeudi à partir de 18h30 aux archives départementales à Rennes en compagnie de la compagnie Théâtre Kidam. On passe rapidement sur la soirée Théâtre d'Objets du 15 décembre qui est un petit peu éloignée de notre zone de diffusion puisque c'est à Fougères. Mais ça tombe bien, le même spectacle est présenté le lendemain, le 16, à Torigny-Fouillard, donc tout près de Rennes. À quoi va ressembler cette soirée ?
Alors c'est pareil, c'est une compagnie qui fait du théâtre d'objets, donc ils utilisent des objets pour mettre en scène une thématique. Comme ça a été co-créé aussi C'est précédé d'ateliers avec des jeunes de 12 à 18 ans, notamment sur Fougères. Je ne peux pas vous dire précisément à quoi va ressembler le spectacle. C'est ça qui est aussi plutôt intéressant dans cet exercice-là. C'est que du coup, on met en lumière ce principe-là d'une manière un peu différente et que tous les spectacles sont différents en fonction de la manière dont se représente la laïcité. Voilà.
Le spectacle, il est à découvrir le samedi 16 décembre à 18h30 au centre forestier Becron sur la commune de Thorigné-Fouillard avec la compagnie Bakélite qui sera donc sur scène pour une soirée théâtre d'objets. C'est en partenariat avec les éclaireuses et éclaireurs de France d'Ille-et-Vilaine. Un mot peut-être pour terminer sur les actions qui sont un peu moins visibles pour le grand public, à savoir des ateliers en milieu scolaire qui se déroulent durant les deux semaines de cette programmation. Je me demandais justement, alors c'est avec les collégiens, quels peuvent être les questionnements qu'ont des collégiens sur ce sujet de la laïcité, ça les inspire ?
Oui, je pense que ça les inspire, en tout cas je pense que ça les questionne. Déjà on les accompagne aussi à définir ce principe-là, ce qu'est le principe de la laïcité, et on leur offre aussi un espace d'échange, de discussion entre pairs sur la thématique, sous un format quand même plutôt éducation populaire et ludique. Mais voilà, on intervient cette année dans une dizaine de collèges sur le département. Donc voilà, c'est très important parce que c'est dans le cadre aussi d'une éducation à la citoyenneté et à la fraternité qui est proposée aussi, voilà, ce temps d'échange dans une dizaine de collèges.
Et tout au long de l'année, la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine, elle propose aussi un espace ressources qui est donc à voir sur place directement dans vos locaux. Ça marche comment ?
C'est ça. Alors, c'est un centre de ressources à la vie associative. Et dans ce centre de ressources, on a aussi un ensemble de ressources autour de la laïcité, une mallette laïcité par exemple. Un ensemble aussi d'ouvrages, de textes de référence autour de la laïcité. Et puis c'est aussi un espace où on peut échanger avec des professionnels, des animateurs sur ces thématiques-là.
On en profite pour redire où sont situés vos locaux pour les auditeurs qui ne le savent pas.
On est situé au 45 rue du Capitaine Maignan à Rennes, entrée place des Colombes.
Donc tout près du Colombier. Je vous représente Marion Garnier, vous êtes chargée de communication à la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine qui organise donc les semaines brétiliennes de la laïcité. Ça a commencé le 1er décembre et ça se poursuit jusqu'au 16 cette semaine dans le département, dans les régions de Rennes et Fougères pour les événements qu'on a annoncés. Pour plus d'informations, il y a le site internet laligue35.org. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
Get a rise, but you won't see to you. They'll demagnetize your pole, and you know they're gonna try to delete you. So now you're atomized on hold. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Blaming technology, oh. May you please, may you stop making your apologies, oh. Blame the technology, yeah. Blame the technology, oh.
There's something in her eyes that completes you. Every time she cries, it brings you low. And just a mirror side can't defeat you. How can you be so wise and still not know? You know you better start making your apologies. Stop blaming take analogy, yeah. Blaming take analogy, oh. May you please, may you start making your apologies, oh. Blaming take analogy, yeah. Blaming take analogy, oh.
Choix musical du jour, Atomized d'Andrew Birds. C'est un titre à retrouver sur l'album Inside Problems qui est sorti en 2022, le 14e disque de ce songwriter américain, Andrew Birds, qui s'est lancé en solo il y a maintenant 20 ans. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Canal B, je le redis, qui a connu des problèmes de diffusion que vous avez peut-être remarqué sur votre poste de radio. Veuillez nous en excuser. On continue en reprenant nos bonnes habitudes. Si vous avez une action ou un événement à présenter aux auditeurs, que ce soit avec votre association ou autre type de structure, collectif, voire institution, n'hésitez pas à m'en faire part par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reprends contact avec vous pour vous proposer une interview ici, en studio, un reportage sur le terrain, ou pourquoi pas pour l'annoncer sous forme de recommandation du jour. Et c'est l'heure. Et oui, l'émission d'information locale, elle se termine toujours avec une recommandation, des conseils de choses à lire, à voir, à écouter ou à vivre près de chez soi. Aujourd'hui, focus sur Noël qui se prépare à la Maison du Don de Rennes. La Maison du Don, on le redit, c'est un lieu qui dépend de l'établissement français du sang et qui accueille le public dans le quartier Villejean pour un don de sang, mais aussi de plasma ou de plaquettes. Et du mardi 12 au samedi 16 décembre, les donneurs seront accueillis dans une ambiance festive avant les fêtes de fin d'année. On nous promet, je cite, une ambiance chaleureuse, une touche boisée et enneigée et une décoration scintillante. Pour les fans de fêtes de fin d'année comme moi, ça fait plutôt envie. En plus d'un don de sang, vous pourrez profiter de votre venue pour déposer des jouets dans le cadre d'une collecte solidaire en faveur de l'Armée du Salut, organisation humanitaire. Une exposition est aussi à voir sur place depuis le 1er novembre. Portrait de femme, c'est signé Émilie Grison, une donneuse et artiste, mais elle est donneuse régulière depuis 20 ans près de l'établissement français du sang. Et elle est heureuse d'apporter ses couleurs et sa joie de vivre dans un lieu qui célèbre la vie, l'entraide et la bienveillance. Pour plus d'infos sur cette collecte de dons un peu spéciale, rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr. La reine. semaine, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine. Le détail ainsi que les podcasts sont à retrouver en ligne sur canalb.fr. Je vous dis à bientôt.